VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h temps universel, dans 5 minutes, l'Amérique et vous avec John Lindon, mais tout d'abord les nouvelles. Politique au Mali, après des soins à Paris, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est rentré hier au pays natal. Les personnes interrogées à Gao, la métropole du Nord, invitent le chef de l'État à s'attaquer maintenant à l'essentiel. De Gao, la correspondance de Boubacar Touré.
Après donc 2 semaines d'absence pour des raisons de santé, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, est entré au bercail hier dimanche en fin d'après-midi. À l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako, voici donc la réaction des personnes interrogées.
Moi, je lui souhaite une bonne arrivée. Parce qu'il était malade, il est parti, on l'a vu à la télé. Je pense qu'il se porte bien actuellement. Vraiment, ils n'ont qu'à voir. On a des problèmes chaque jour. On voit des choses que vraiment on ne comprend pas. Personne ne sait qui est qui maintenant. Vraiment, on est en insécurité.
Ce que moi je vois, il est incapable de gérer le pays. Point bas. Même s'il a la santé. Sa politique même vraiment qui ne marche pas au Mali. Nous, on n'a rien vu. On n'a rien vu comme les changements. Tout le monde plaigne là où on est. Rien ne marche ici à Gao. Rien.
Bon, je suis content de revoir le président revenir au Mali en très bonne santé. Je lui souhaite aussi davantage qu'il ait de la santé, la force et le courage de diriger le Mali. Moi, je ne trouve pas de difficultés. Hein. Seulement, les gens ne sont pas en train d'accompagner le président de la République. Et ils n'ont qu'à soutenir le président pour que le Mali aille en paix.
Nous vivons vraiment dans des conditions très, très, très difficiles. On ne peut même pas parcourir 5 km sans être attaqué, sans être pillé par des bandits. L'application de l'accord, c'est la seule solution qui peut résoudre tous ces fléaux.
Gao, Boubacar Touré, VOA Afrique.
Crise au Burundi, la liste des personnes tuées ne cesse de s'allonger dans le pays. Au moins 5 morts de plus hier et ce lundi dans la capitale. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
La violence a augmenté d'un cran ce week-end. Le général de brigade, Athanase Kararuza, sa femme, ont été tués par des gens armés non identifiés ce lundi matin, alors qu'ils amenaient leur enfant au collège du Saint-Esprit de Kamenge, au nord de la capitale. Une information confirmée par le porte-parole de l'armée, Gaspard Baratuza. Le général Kararuza était chargé des questions de sécurité à la première vice-présidence du Burundi. Dimanche, une grenade qui visait le ministre des Droits de l'Homme, Martin Ivyarandi, a tué une personne et blessé plusieurs autres, alors qu'elle venait de prier à l'église Guérison des âmes de Nyakabiga à Bujumbura. Des hommes armés non encore identifiés ont lancé également dimanche une grenade à Charama dans les quartiers de Kinama au nord de Bujumbura, tuant une femme et un visiteur selon la police. Le mari de la femme, qui est commissaire de police, a été blessé. Un week-end donc sanglant et un début de semaine violent, alors que se profile le début de négociations interburundaises au mois de mai entre le gouvernement et l'opposition. Ces derniers jours, l'on assiste à une recrudescence de la violence dans beaucoup de provinces du Burundi. Depuis le début de la crise en avril dernier, plus de 470 personnes ont été tuées selon les Nations Unies et 270 000 personnes sont réfugiées en Tanzanie, en Ouganda, au Rwanda et en République démocratique du Congo. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Et toujours au Burundi, la procureure de la Cour pénale internationale Fatou Bensouda a annoncé l'ouverture d'un examen préliminaire étape le préalable à une enquête sur la violence commise au Burundi depuis avril 2015.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Tchad, 5 candidats d'opposition à la présidentielle, dont le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo, accuse aujourd'hui le pouvoir d'actes d'intimidation depuis la réélection du président Idriss Déby Itno à un 5e mandat ce mois-ci. Mahamat Amat Lazina, président national du MNCT, le Mouvement National pour le Changement au Tchad d'opposition, est porté disparu depuis une semaine après avoir été arrêté et s'être évadé, selon les autorités tchadiennes. Et pour terminer, Papa Wemba, légende de la musique africaine, est mort sur scène ce week-end à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il participait au festival des musiques urbaines d'Anoumabo. La réaction de fans congolais.
Je l'ai connu en tant que musicien, surtout sur le film de Nabala Kabibi, avec Emoro, Pepe Kale, Kabasele. C'est à ce niveau-là que j'ai découvert Papa Wemba. J'ai été une fois dans son concert, vers les années 80-82. Mama Tongue, dans un concert. Lui, c'est un grand monument, comme Lombo Makiadi, comme Taboulé. Lui est mort, mais la musique reste. On le verra à travers sa musique toujours.
Un fan de Papa Wemba, réaction recueillie par Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
I have a dream.
It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à VO Afrique. Vous écoutez l'Amérique et vous. Nous émettons depuis Washington DC, la capitale américaine. John Linden à la présentation. Georges Léonard Sagnoa sur la mise en onde. Le temps d'une pause et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VO Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Pour la première fois, une femme noire va figurer sur un billet américain. Jack Lee, le secrétaire au Trésor, en a fait l'annonce cette semaine, mettant ainsi fin à un suspense qui tient en haleine les Américains depuis presque un an. Le nouveau billet de $20 portera le portrait de l'abolitionniste et ancienne esclave Harriet Tubman, qui a vécu de 1822 à 1913. Ironie de l'histoire, Harriet Tubman, dont le portrait sera sur les billets de $20, remplace Andrew Jackson, qui a vécu, lui, de 1767 à 1845 et a été le 7e président des États-Unis, mais aussi et surtout un propriétaire d'esclaves. Selon plusieurs médias américains, l'impression du nouveau billet ne devrait toutefois pas intervenir avant 2030. Que vous inspire cet acte du Trésor américain? Évidemment, nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001 202 619 31 40. Vous écoutez l'Amérique et vous sur VO Afrique et bien sûr pour nous accompagner au cours des 25 prochaines minutes, nous aurons avec nous Félix Mayanga, consultant et amoureux de l'histoire. Nous l'avons depuis Paris en France. Félix, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être parmi nous. Depuis Milan en Italie, nous avons Jean-Claude Mbédé. Jean-Claude Mbédé est également journaliste et faut-il le rappeler, il a longtemps travaillé comme correspondant de VO Afrique à Yaoundé au Cameroun. Jean-Claude Mbédé, bonsoir et bienvenue.
Bonsoir et bienvenue à Milan.
C'est un plaisir de te retrouver sur VO Afrique. On va accueillir notre dernier invité et c'est le professeur Ahmad Mahamad Hassan. Le professeur Ahmad Mahamad Hassan est constitutionnaliste et enseignant de droit à l'université de N'Djamena. Professeur Ahmad, bonsoir.
Bonsoir.
Merci à vous pour votre disponibilité. Chers invités, vous restez en ligne. Je vous retrouve dans un instant. Aux États-Unis, pour la première fois donc, une femme noire, l'abolitionniste et ancienne esclave Harriet Tubman, va figurer sur le billet de $20. Qui était cette femme noire décédée en 1913 après avoir passé sa vie à essayer de sauver des esclaves? Idriss Fall a obtenu l'éclairage de Jeanne Maddox Tungara. Elle est professeure d'histoire à Howard University ici à Washington. On l'écoute.
C'était une femme qui est née en esclavage. Elle a pu échapper. Elle est devenue une de nos plus grandes femmes de résistance dans l'histoire américaine. Elle est devenue une abolitionniste. Elle est rentrée plusieurs fois dans les zones de l'esclavage pour amener les gens suivant les étoiles pour partir vers le nord, même vers le Canada. Vous avez entendu parler certainement du chemin de fer par lequel les gens s'arrêtaient par-ci, par-là, hébergés souvent par les Quakers, protestants religieux qui étaient contre l'esclavage. Les gens étaient hébergés dans le sous-sol souvent de ces maisons petit à petit. Ils s'échappaient pour aller vers le nord. Il n'y avait plus de l'esclavage.
Mais c'était un travail risqué, non?
Très risqué, mais justement, elle était très humaine. Et puis aussi, encore, elle était malade parce que souvent, elle tombait en syncope. Tout le monde savait, les gens attendaient et puis la protégeaient jusqu'à ce qu'elle se réveillait et puis continuait le chemin. C'est parce qu'elle a été battue étant enfant. Elle a reçu des blessures à la crâne et c'est ça qui faisait ces épisodes de sommeil où elle tombait en syncope. Malgré tout ça, elle a continué. C'est